Chapitre 48. Il n'y avait pas 36 magasins qui vendaient des bateaux dans les alentours de Paris. Le premier, situé à Élancourt dans le 78, était fermé pour travaux depuis l'été. Le deuxième ne proposait que du gros matériel à moteur, et quant au troisième, situé sur le quai Alphonse le Gallo à Boulogne-Billancourt, il présentait toutes les caractéristiques pour mériter une visite. Vu les conditions météo, Charcot jugea plus prudent d'opter pour un déplacement en métro. Depuis son bureau, il signala à Robillard qu'il sortait faire une course et qu'il ne reviendrait peut-être pas ce soir. Il se vêtit chaudement, enfila ses gants, enroula son écharpe autour de son cou et marcha sous la neige jusqu'à la station Cluny-la-Sorbonne. Il avait besoin de prendre l'air et voulait profiter du trajet pour discuter un peu avec Lucie au téléphone. Depuis qu'elle était au Nouveau-Mexique, il n'avait échangé que de timides SMS. Malheureusement, il tomba sur le répondeur et laissa un message. Sans doute menait-elle ses recherches méticuleuses, enfermées dans les archives de la base militaire de Kirtland. Quelques minutes plus tard, il s'engouffra dans la bouche souterraine à proximité de la célèbre université, ligne 10. Les foules circulaient, chargées de paquets, de sapins emballés, de grands sacs multicolores. Les enfants étaient en vacances, les gens souriaient. Dans 3 jours, c'était le réveillon. Le commissaire prit sa place parmi les quidam et dut rester debout, tant les rames étaient bondées. Il passa les 3/4 du trajet à sourire à une petite Asiatique qui n'avait cessé de le dévisager. C'était pour elle qu'il irait au bout de son enquête. C'était pour elle que, malgré tout, il continuait son fichu métier. Elle, ses semblables, tous les enfants. Pour qu'il puisse grandir et vivre sans la crainte de se retrouver enfermé au fond d'une cave par des pourris de la trempe de Dassonville. Une demi-heure plus tard, aux alentours de 18h30, il descendit à l'arrêt Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud et marcha jusqu'au quai Alphonse le Gallo. La grande tour de TF1 dominait la rive droite. Les eaux de la Seine étaient sombres, couleur de vieux tabac. Les mains dans les poches, le commissaire de police franchit un parking et pénétra dans l'espace Masura, un vaste bâtiment à la façade agréable qui était, ni plus ni moins, la grande surface du bateau. On y vendait de petites embarcations, des porte-bateaux, des vêtements de mer, des skis nautiques. On pouvait aussi s'inscrire pour passer le permis bateau ou faire réparer son moteur. Il se dirigea vers le rayon où étaient exposées des barques de toutes les formes, de toutes les couleurs, à fond plat ou incurvé, en polyéthylène, aluminium, pneumatique. Un vendeur arriva derrière lui. « Je peux vous aider ?» Charcot lui tendit une des photos de la barque qu'il recherchait. « Je voudrais savoir si vous avez ce modèle. » L'homme considéra le cliché et acquiesça. « L'Explorer 280 en bois. Nous l'avons à disposition, suivez-moi. » Était-il possible que Charcot ait tapé juste ? Qu'il ait enfin un coup d'avance sur son adversaire. Ils bifurquèrent dans un rayon parallèle. La fameuse barque était exposée, placée à hauteur de hanche. Charcot n'avait aucun doute. Il s'agissait exactement de la même barque, des mêmes rames. Le flic sortit sa carte tricolore mal en point. Police criminelle de Paris. Dans le cadre de mon enquête, j'ai besoin de savoir si une personne a acheté cette barque récemment. Le vendeur marqua une hésitation avant de hocher la tête. Il se dirigea vers un ordinateur à proximité. « Nous n'en vendons que rarement, surtout en cette saison. Attendez 2 secondes, je vérifie. » Après quelques clics, il pointa son doigt sur l'écran. « Oui, Explorer 280, le 29 novembre dernier. Apparemment, le client nous en a acheté 2 d'un coup. D'après le ticket de caisse, je vois qu'il s'est aussi procuré une combinaison de plongée spéciale hiver, une épuisette et une lampe étanche. Vous avez son identité ?»« Non, l'ordinateur indique que le règlement a été effectué en liquide. » Ce n'est pas moi qui me suis occupé de lui, mais selon mes souvenirs, sa voiture était sur le parking avec le porte-bateau. J'ai aidé mon collègue à attacher les 2 barques. Ensuite, le client nous a serré la main et est parti. Dites-moi tout ce que vous vous rappelez. Physiquement, je ne pourrais pas vous raconter grand-chose. Il était bien couvert, bonnet, écharpe, lunettes de soleil, qui n'a même pas retiré dans le magasin. Il devait avoir une bonne 30aine d'années, mesurait à peu près ma taille. Un peu plus, peut-être. La description concordait avec celle faite par le jeune Johan Chaffran. Des traits caractéristiques, cicatrices, tatouages? Non. Une idée de sa plaque d'immatriculation? Non, désolé. D'ailleurs, son porte-bateau ne possédait pas de plaque. Mon collègue le lui a fait remarquer. Quant à sa voiture, c'était un petit modèle, genre 206 ou Clio. Charcot rageait. C'était trop maigre. Il fixa la barque d'exposition. Un beau modèle encombrant. Impossible, évidemment, à stocker dans un appartement. L'assassin de Gloria avait forcément remisé ses 2 embarcations quelque part. Peut-être un double garage ou un espace plus grand encore. Le flic songea à la combinaison de plongée, à la lampe étanche. Qu'est-ce que cet enfoiré préparait avec un tel matériel? Une idée de ce qu'il voulait faire avec ses barques? Je vais chercher le collègue qui s'est occupé de la vente, ce sera plus simple. Je reviens. Il disparut au bout de l'allée. Le commissaire allait et venait, une main en menton. Il imaginait parfaitement la jouissance du pervers qui s'amusait avec lui. Son plan était puissant, élaboré. C'était une véritable montre suisse au mécanisme infaillible. Quel en serait le point d'orgue? Sa mort? Ou alors, Charcot songea à Lucie. L'ange rouge avait enlevé Suzanne pendant 6 interminables mois. Si ce salopard suivait le chemin du tueur en série, alors... Il étouffait, éprouvant le besoin de parler à sa petite amie, là, tout de suite. Entendre sa voix, juste entendre sa voix. Il composa le numéro en catastrophe et tomba de nouveau sur le répondeur. Il raccrocha sans laisser de message. Le vendeur revint, accompagné de son collègue. « Ce client était bizarre, » fit le nouveau vendeur en tendant une main au commissaire. « Pourquoi bizarre ?»« Il semblait assez fou d'insectes. Quand il est arrivé ici, il ne parlait presque pas. Il voulait prendre son matériel le plus vite possible et s'en aller. Mais à un moment, j'ai eu l'impression qu'il s'était mis à délirer. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était curieux. » Ses yeux s'évadèrent. Charcot l'incita à continuer. Il tenait peut-être quelque chose. « Il parlait d'attraper des libellules. » Oui, c'est ça, se cacher dans une barque et attraper des libellules, parce qu'elles s'attrapent plus facilement au milieu des étangs, selon lui. C'était peut-être la réalité du chasseur de libellules, mais moi, j'ai commencé à me dire que ce monsieur avait un sacré problème. Charcot réfléchissait aussi vite que possible. Les insectes. Il avait déjà eu affaire à un tueur par le passé, qui utilisait des insectes pour ses crimes. Là aussi, l'assassin était mort de sa main. Était-il possible qu'il y ait une relation avec ce vieux dossier ? Il ne poussa pas davantage et le vendeur poursuivit. Il a continué à s'enfoncer dans son délire quand il m'a dit qu'il chassait également le papillon de nuit, là aussi au beau milieu des étangs, avec une sacrée technique. Il eut un sourire moqueur. Apparemment, il pose sa lampe sur la barque, va dans l'eau, protégée du froid par la combinaison de plongée, et attend avec l'épuisette. Vous imaginez la scène? Bref, il n'était pas clair-clair. Le papillon de nuit. Charcot sentit son cœur s'accélérer. Était-il possible que... Est-ce qu'il vous a parlé de sphinx à tête de mort ? Le vendeur acquiesça. Oui, c'est ça ! Il voulait capturer des sphinx à tête de mort. Comment vous savez ? Charcot blêmit. Le sphinx à tête de mort. Un morbide messager que le commissaire avait déjà croisé dans une éprouvante enquête, 6 ans auparavant. L'une des pires affaires de sa vie. Déboussolé, il frissonna à l'idée de cet insecte à l'abdomen si particulier, porteur du visage de la mort. Si ses déductions étaient justes, il connaissait désormais sa prochaine destination. Là où il y avait bien longtemps, le tueur aux insectes avait élevé et utilisé ses sphinx pour une bien sombre mission. Les ténèbres.